Bien, nous ouvrons donc dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 14. Et nous allons lire les versets 6 à 12. Apocalypse chapitre 14, les versets 6 à 12. Nous lisons donc. Verset 6, je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer, et les sources d'eau. Un second ange suivit, en disant, « elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de sa débauche. » Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni le jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints, qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Nous continuons donc notre étude de ce livre et nous avons vu déjà à plusieurs reprises des symboles. On dit, nous cessons de le dire, que le livre de l'Apocalypse utilise des symboles et en particulier nous avons vu des symboles qui décrivent la réalité du combat spirituel. Premier mot sur la feuille. Il y a le dragon, Satan, il y a ses serviteurs, les deux bêtes qui contrôlent ce monde incrédule. Satan est appelé d'ailleurs le dieu de ce monde, le prince de ce monde. Il n'est pas Dieu, mais il a pris la place de Dieu. Et les hommes sont les esclaves. On peut penser au chapitre 1er d'Éphésiens, par exemple, qui décrit cette réalité. Mais il y a aussi l'Église du Seigneur Jésus-Christ qui connaît la vérité et contre qui Satan, contre qui le diable et ses alliés se bat. Et quand on réalise cette réalité, quand on réalise que l'adversaire avec ses alliés tiennent ce monde en esclavage, il y a ce désir et cette envie, ce souhait, De voir ces puissances être anéanties, de voir la libération de l'humanité. Si quelqu'un pouvait venir et détruire ce diable, ce dragon et ses alliés. Et c'est le message de ces trois anges que nous lisons dans ce passage. Nous sommes à la fin de la quatrième vision. Nous avons vu au début du chapitre la description des 144 000 de l'Église dans la gloire. Et là, nous revenons sur terre et nous avons ces anges qui déclarent la chute de la puissance maléfique. Ces anges qui apportent un avertissement du jugement pour ceux qui rejettent le Seigneur Jésus-Christ. Et un avertissement de la colère éternelle de ceux qui servent la bête. Un commentateur le résume en disant « Les trois anges ont une seule et même mission, celle d'avertir l'humanité de l'imminence du jugement pour que les hommes se tournent vers Dieu dans un élan de foi véritable. » Nous allons donc voir tout simplement les trois anges, trois anges. Une division facile à faire de ce passage. Le premier ange, verset 6, « Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. L'image, on pourrait très bien voir l'image moderne pour décrire cela. L'image d'un avion, parfois que vous voyez, surtout au bord de la plage, un avion avec une banderole publicitaire qui annonce quelque chose, un événement. On a un peu la même image ici. Un ange qui est là, qui vole au milieu du ciel, le monde entier le voit. Le message qu'il apporte, c'est un message qui vient de Dieu. Jean décrit ce message comme étant un évangile. Et c'est assez surprenant au premier abord, parce que Jean ne dit rien au sujet du Seigneur Jésus. Il ne dit rien au sujet de la mort substitutrice du Seigneur Jésus sur la croix. Il ne parle pas de l'offre du salut. Le message est plutôt un message d'avertissement. Verset 7. Craignez Dieu, donnez-lui la gloire, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Comment un avertissement au sujet du jugement peut-il être un évangile, c'est-à-dire peut-il être une bonne nouvelle, deuxième mot sur la feuille. C'est une bonne nouvelle pour l'Église, parce que cette Église est persécutée par la bête. Et voilà que l'heure du jugement de la bête arrive. C'est une bonne nouvelle, c'est un évangile pour le croyant. Mais l'évangile aussi est ici présenté sous la forme d'un appel à la repentance. Et là, on retrouve l'exemple du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Par exemple, en Marc 1, versets 14 et 15, nous lisons ceci. « Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » L'évangile, bien sûr, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, c'est sa venue, ce qu'il est venu accomplir, cette venue appelle à la repentance et à la foi. Jésus parle de la venue du royaume de Dieu. Ici, en Apocalypse 14, l'ange parle de la venue de l'heure du jugement. Et les deux se rejoignent, la venue du royaume de Dieu et l'heure du jugement se rejoignent et parlent de la même chose. Et cet ange, verset 6, prêche cet évangile à tous les habitants, troisième mot sur la feuille, à tous les habitants de la terre. Alors cette expression « habitants de la terre » ici, c'est littéralement ceux qui sont assis sur la terre. Dans le livre de l'Apocalypse, cette expression décrit cette foule incrédule de l'humanité qui ignore le Seigneur Jésus-Christ et qui est parfaitement confortable avec un train de vie qui est rempli d'impiété, rempli de péché et de débauche. Cette multitude couvre toute la terre entière et si on avait un doute, le verset 6 précise à toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple. L'ange montre comment Dieu les appelle tous, appelle toute l'humanité à prendre conscience, à écouter le message au sujet du retour de son Fils. Et l'Église, qui connaît l'affliction, se réjouit d'entendre ce message. Pour elle, c'est une bonne nouvelle. Quand l'Évangile est annoncé, nous savons que soit nos ennemis seront touchés, seront convertis et se joindront à nous pour louer le Seigneur, soit ils seront jugés par Dieu dans une justice qui est parfaite, une justice qui est sainte. Mais c'est une bonne nouvelle, parce que Dieu sauve et Dieu va punir ses ennemis. Mais l'ange va décrire cet évangile comme étant éternel, quatrième mot sur la feuille. Et c'est un point intéressant à soulever. Dans un certain sens, l'Évangile n'est pas éternel. C'est une bonne nouvelle, oui, mais quelque chose de nouveau est arrivé. Il y a eu un changement. Et ce changement, c'est que Dieu s'est fait homme. Christ est venu et a sauvé son peuple. Christ est venu sur terre, il a pris notre humanité et il est venu sauver son peuple de son péché. C'est donc un évangile historique. Il y a des événements qui se sont déroulés dans l'histoire. Mais il y a aussi beaucoup de raisons pour dire que cet évangile est éternel. Et la raison la plus facile à comprendre, c'est que l'évangile a des conséquences éternelles. C'est le but de l'annonce de l'ange, d'ailleurs. Le retour du Seigneur Jésus-Christ apporte avec lui l'heure du jugement. Il n'y aura pas de deuxième chance. Il n'y aura pas de deuxième occasion. Certains aujourd'hui vont dire qu'après le retour du Seigneur Jésus-Christ, il y a une période où la repentance sera possible. La réponse de la Bible, c'est non. Après le retour, au retour du Seigneur Jésus-Christ, c'est le jugement final. On le verra un peu plus tard dans les chapitres qui viennent. Au retour du Seigneur Jésus-Christ, ou alors si le Seigneur Jésus-Christ tarde, nous quittons cette terre, nous mourrons. Il n'y a pas de deuxième chance. Il n'y a pas de deuxième occasion de repentance. Les conséquences de notre réponse à l'Évangile sur terre, en le recevant par la foi ou en le rejetant, sont des conséquences qui sont éternelles. L'Évangile est éternel parce que ses conséquences sont éternelles. Mais une autre raison, c'est que cet Évangile est éternel parce qu'il accomplit le plan éternel de Dieu. Il révèle sa gloire dans le salut d'un peuple. Il apporte cette justification dont nous avons parlé tout à l'heure avec les enfants. Cette justification qui n'a pas de date de limite. Elle n'est pas valable un certain temps. C'est une justification qui est éternelle. Notre sécurité est éternelle. Nous sommes à Christ, comme le dit l'apôtre Paul, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Notre sécurité en Jésus-Christ est éternelle. Et l'évangile du salut par grâce, par la foi dans le Seigneur Jésus-Christ, sera le sujet d'une adoration éternelle dans le ciel. Cet évangile est éternel. Mais le message de cet évangile est tellement important qu'il exige une réponse, cinquième mot sur la feuille, une réponse de chacun. L'ange disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Au lieu d'être indifférent aux déclarations de Dieu, les hommes devraient prendre Dieu au sérieux. Ils doivent lui accorder l'honneur qu'il mérite en tant que souverain, Seigneur, Créateur de l'univers. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Certains peut-être se rappelleront d'avoir déjà entendu cette déclaration. Craignez Dieu et rendez-lui gloire. Et cette déclaration, on la retrouve en fait dans le livre de Josué. Josué chapitre 7. Vous vous rappelez peut-être, après la destruction de Jéricho, Achan avait dérobé des choses qui étaient interdites. Et quand Achan est désigné coupable, Josué lui demande de dire ce qu'il a fait, et il commence par ces paroles, Josué 7, verset 19. Il dit à Achan, « Mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. » En fait, il dit à Achan de confesser qu'il est coupable, qu'il reconnaît sa culpabilité et que Dieu est juste en le condamnant. Et c'est ce que l'ange souligne ici. C'est un appel à l'humilité en réalité. C'est un appel à reconnaître que nous sommes pécheurs et que Dieu est juste en nous punissant. mais c'est aussi un appel que l'homme doit crier à Dieu pour sa miséricorde et pour trouver le pardon de ses péchés. Et notre vie dans ce monde, en tant que chrétien, devrait refléter cela. Notre relation avec Dieu devrait envoyer ce message à ce monde. Réveillez-vous. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui a créé ce monde, qui a créé toutes choses. Cessez de vivre comme s'il n'existait pas. Rendez-lui la gloire qu'il mérite et allez à la croix pour le pardon de vos péchés. Un commentateur utilise l'image suivante. Il parle d'un homme qui est assis au bord de la mer et qui est en train de peindre le superbe paysage qu'il voit. Il est tellement pris par cela qu'il ne voit pas que la marée, elle monte. Il adore la vie, il adore mère nature, comme on dit aujourd'hui, et il n'entend pas les avertissements. Et puis la mer finit par l'engloutir. Le Seigneur Jésus-Christ donne un avertissement similaire quand il reprend le récit du déluge en Matthieu 24, les versets 37 à 39. Il dit ceci, ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, marièrent leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que les déluges viennent et les emportent tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Les hommes n'en tiennent pas compte. Mais voilà l'avertissement, sixième mot sur la feuille. L'avertissement de l'ange. Craignez Dieu et adorez-le. Et n'adorez pas ce monde. Et le verset 7 donc, nous donne la base de cette adoration. C'est sa gloire en tant que créateur. Voilà la raison pour laquelle tout le monde est appelé à adorer Dieu. Nous sommes tous ses créatures. Mais l'Écriture a souligné, nous l'avons déjà rappelé, l'offense qui est faite à Dieu par l'indifférence, par la rébellion de l'homme face à la révélation de Dieu. Et nous avons lu déjà dans Romains 1, par exemple, verset 21, où Paul écrit « Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. » Et à la lumière donc de cette offense, l'ange appelle tous les habitants de la terre à se réveiller devant la réalité que Dieu existe et de se réveiller avant l'heure du jugement. Parce que là, il sera trop tard. Le message donc du premier ange est un message d'avertissement. Le jugement vient contre tous ceux qui sont indifférents et tous ceux qui ne reconnaissent pas Dieu pour qui il est. Mais il y a un deuxième ange qui suit, deuxième point. Et son message est dramatique. Et son message introduit une nouvelle image dans le livre de l'Apocalypse. Il parle de Babylone, septième mot sur la feuille. Il parle de Babylone, la prostituée. L'Église primitive à laquelle Jean s'adresse, et l'Église dans les siècles, les premiers, deuxièmes, même troisième siècle, a sans doute très bien compris le sens de cette image. Il y a d'ailleurs des écrits non bibliques que l'on connaît sous le nom d'oracles sibyllins, qui parlent de Rome en la décrivant comme Babylone. Et à la fin de sa première lettre, l'apôtre Pierre nous donne les salutations de l'Église des élus qui est à Babylone. 1 Pierre 5, verset 13. Sans doute un code pour décrire Rome, pour parler de l'Église qui est à Rome. Rome est comparée à Babylone parce qu'elle ressemble à Babylone. Elle a attaqué le peuple de Dieu. Babylone a détruit la ville de Jérusalem, tout comme Rome. Elle a emmené le peuple en exil et quand, dans le livre de Daniel, par exemple, quand les croyants voulaient servir Dieu, le régime babylonien les a persécutés. Dieu les a délivrés. Mais voilà, Rome ressemble à Babylone dans ce sens. Et ce que les personnes donc, à qui Jean écrivait, ce qu'ils connaissent, ce qu'ils doivent faire face à cette persécution de la part de Rome. Aujourd'hui, nous avons une autre Babylone, ou une autre manifestation de Babylone. C'est tout le système de ce monde qui se dresse contre l'Évangile. Tous ces dirigeants qui se révoltent contre Dieu, qui font la promotion de ce que quelqu'un a appelé un humanisme séculier, sans référence à Dieu, et qui le font sur le plan mondial. Babylone, pour nous, c'est l'esprit d'impiété. Huitième mot sur la feuille. L'esprit d'impiété qui règne dans ce monde et qui détourne un bon nombre de personnes de l'adoration véritable de Dieu. Mais le cri de l'ange, il est celui-ci. Elle est tombée. Elle est tombée, Babylone, la grande. Nous sommes de ceux qui attendent la révélation du salut. Est-ce qu'il est possible que l'ennemi dans le monde dans lequel nous vivons, est-ce qu'il sera un jour détruit? La réponse est oui. La réponse est oui. Satan est vaincu. Satan et ses alliés sont vaincus. Babylone est un symbole, tout comme Rome, un symbole non seulement de l'oppression tyrannique contre le peuple de Dieu, mais aussi donc de la séduction pécheresse du monde dans lequel nous vivons. Verset 8, « Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de sa débauche. » On apprendra davantage plus tard au sujet de Babylone. Ici, il nous est simplement dit que ce système malveillant du monde ne se contente pas seulement d'opprimer les personnes et de les garder en esclavage, mais il les séduit. Ce système les séduit dans un péché pour détruire leur âme. La ville de Babylone, l'originale, avait la notoriété d'être une ville puissante, mais aussi une ville de violence, une ville de luxure, une ville d'immoralité. Jérémie, par exemple, utilise ce langage en décrivant Babylone. Jérémie 51, verset 7. « Babylone était dans la main de l'Éternel une coupe d'or qui enivrait toute la terre. Les nations ont bu de son vin. C'est pourquoi les nations ont été comme en délire. » Et au temps de Jean, on pouvait dire cela de l'Empire romain. Il y a donc vraiment un parallèle très réel. Et de nos jours, il faut accepter que cela décrit l'Occident dans lequel nous vivons. L'Occident qui exporte l'immoralité sous toutes ses formes. Et l'avertissement de l'ange, il est là. S'il n'y a pas de repentance, à chaque fois, Babylone tombe. Neuvième mot sur la feuille. À chaque fois, Babylone tombe, quelle que soit la forme sur laquelle elle se manifeste. Babylone est tombée et Babylone tombera. L'ange avertit du jugement de Dieu sur ceux qui boivent de la coupe de Babylone. Le verset 8 parle de du vin de la fureur de sa débauche. Et le terme de fureur, dans le grec, c'est le terme colère. Et c'est le vin de la colère, de sa débauche. La débauche est un poison. L'être humain qui boit de cette coupe perd sa capacité à prendre plaisir dans ce que Dieu a créé, dans tout ce que Dieu a créé. Et on peut parler de cette société dans laquelle on vit, qui est hyper sexualisé. J'étais surpris, à moitié surpris. En lisant, en apprenant que dans la campagne actuelle des élections régionales, des candidats sont allés, je crois, du côté de Monceau et sont allés distribuer des préservatifs. Ils ne sont pas allés parler d'abstinence, ils ne sont pas allés parler de fidélité au sein du mariage. Non, et si nous, on y allait, on se moque de nous. C'est une tragédie de voir un don de Dieu être piétiné et de voir les hommes perdre la capacité de réaliser, de réfléchir à ce qu'ils font. On pense au livre des Proverbes, quand le sage s'adresse aux jeunes hommes. Proverbe 7, verset 1, « Mon fils, retiens mes paroles. » Et dans ce chapitre, quand il parle de la femme débauchée, le sage va conclure en disant, verset 24 et suivant, « Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, soyez attentifs aux paroles de ma bouche, que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. Ne t'égare pas dans ses sentiers, car elle a fait tomber beaucoup de victimes, et ils sont nombreux, tous ceux qu'elle a tués. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Il descend vers les demeures de la mort. » Voilà la Babylone, la prostituée qui offre du plaisir et qui présente toutes ces images attirantes, mais elle veut en réalité nous détruire. L'Occident est balayé par l'immoralité et ça se voit à tous les niveaux et ça engendre bien des problèmes. Aujourd'hui, d'un côté, les jeunes filles et les femmes se sentent abaissées parce que les publicitaires mettent l'accent simplement sur l'attirance physique. Les publicitaires ou les films mettent l'accent là-dessus. C'est le message de l'adversaire. Et nous devons combattre cette réalité, de dire non, ce qui compte, c'est la personnalité, c'est le caractère, c'est la piété qui attire. Mais inversement, de l'autre côté, pour les hommes, nous sommes bombardés par ces images. Partout, le monde, quelqu'un utilisait cette image très frappante, le monde envoie des hameçons à travers nos yeux pour essayer d'attraper le cœur et le réduire à un esclavage. Et voilà l'activité de Babylone qui essaye de nous attraper, de nous réduire en état d'esclavage. Et c'est donc une très bonne nouvelle que d'entendre ce cri. Elle est tombée. Elle est tombée, Babylone la Grande. Aujourd'hui, elle séduit beaucoup de personnes. Même des chrétiens sont affectés par ses tentations. Mais la bonne nouvelle, c'est que Babylone va tomber. Beaucoup de croyants vont lutter contre la prostituée Babylone. Mais il faut noter que le message de l'ange, la condamnation que l'ange déclare ici, n'est pas dirigée contre ceux qui luttent contre l'immoralité ou contre la perversion. Non, mais ceux qui ne luttent pas ou qui ne luttent plus, qui sont devenus indulgents, qui tolèrent le péché dans leur vie. Et la distinction est importante, parce que des chrétiens peuvent tomber, ils peuvent chuter. Il suffit de penser au roi David, par exemple, qui a commis l'adultère. C'est une réalité. Mais il y a aussi la réalité que Dieu amènera ses enfants à la repentance et à confesser leurs fautes et à revenir. Certains vont lutter pendant des années. Il ne faut surtout pas laisser Satan nous dire « Pourquoi lutter ? Tu as bu la coupe, tu es perdu. » Ce n'est pas ça le message de l'ange. Non, le chrétien doit effectivement considérer la question de l'immoralité comme étant une question sérieuse. Il doit lutter en utilisant les armes que Dieu nous donne et dont nous avons la description en Éphésiens chapitre 6. Mais la réalité pour le croyant, c'est que tous ses péchés sont pardonnés, sont lavés dans le sang de l'agneau. Et cette foi que Dieu nous donne en Christ, qui regarde à Christ, cette foi nous pousse aussi à lutter et à renoncer à la coupe de Babylone. Mais ceux qui ne renoncent pas, Ceux qui sont indulgents, qui tolèrent le péché dans leur vie, non seulement souffriront le châtiment sur la corruption présente, mais aussi à la fin, verset 10, ils boiront le vin de la colère de Dieu. Il y a un parallèle qui est soulevé. L'immoralité est en soi une coupe de passion, mais Dieu a une autre coupe pour ceux qui boivent la première. Et sa coupe n'est pas diluée. C'est toute sa colère qui sera déversée sur ceux qui boivent la coupe de Babylone. Le point important à souligner ici, le message du deuxième ange, c'est l'inévitabilité du jugement de Dieu. Son jugement est inévitable. La coupe de l'immoralité est toujours suivie par la coupe de la colère de Dieu. Tout ce que Babylone, toute la promotion que fait Babylone pour les péchés, pour l'immoralité, pour l'idolâtrie, tout cela sera suivi par le jugement de Dieu. Le premier ange donc avertit contre l'indifférence spirituelle, contre ceux qui ne prêtent pas attention. Le deuxième ange dit que c'est pire, qu'il faut réaliser qu'il y a une condamnation éternelle sur ceux qui sont indulgents avec le péché, quel qu'il soit. Notez l'expression « Babylone la grande ». Cette expression, on la retrouve, elle vient de Daniel 4, verset 30. Et vous vous rappelez sans doute que c'est Nebuchadnezzar qui prononce cette parole. Nebuchadnezzar, l'empereur, qui a fait de Babylone une ville grande, une ville forte, et il se vante, il s'enorgueillit de tout cela. Daniel 4, verset 30, « N'est-ce pas ici Babylone la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ?» Un commentateur ici fait une comparaison. Il dit ici, voilà, c'est la voie de l'humanisme séculier dans tout son orgueil. « N'est-ce pas ma Babylone que j'ai bâtie par ma puissance et pour ma gloire ?» Et ce commentateur fait une comparaison avec Romains 11, verset 36, où Paul, dans une doxologie, glorifie Dieu. Et il dit, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui, à Dieu seul, la gloire dans tous les siècles. Et l'humanisme séculier dit, non, non, pas à Dieu, à moi, pour moi, par moi. Nebuchadnezzar fait cette déclaration en Daniel 4, verset 30. Et en Daniel 4, verset 31, Dieu le juge. Et c'est intéressant de voir comment le jugement de Dieu correspond au péché. Nebuchadnezzar s'est enorgueilli dans son humanisme séculier sans tenir compte de Dieu. Et Dieu le juge avec la folie. Il le fait vivre comme une bête pendant 7 années. Ce n'est pas un jugement arbitraire. Ce n'est pas comme si Dieu avait un livre avec tous les jugements possibles et qu'il feuilletait en disant comment est-ce que je vais juger Nebuchadnezzar. Non, ce n'est pas un hasard. Dieu s'adressait à Nebuchadnezzar. Et c'est ce qu'il fait quand il juge, afin que son jugement donne raison, afin qu'il revendique sa cause, afin qu'il jette la honte sur l'idolâtrie de ce monde. Dieu disait en fait à Nebuchadnezzar, si tu crois réellement que tout ceci ne parle que de toi, que cela est de toi, que cela est venu par toi et que c'est pour ta gloire, tu dois être fou. Si tu crois réellement dans l'humanisme séculier, tu es déjà fou. Et donc je te juge avec la folie. Et il donne pleine mesure à cette folie. Le commentateur dit ceci, quand Dieu a amené Nebuchadnezzar à être humilié dans les profondeurs de la folie, c'est à la manière de Dieu de dire, voilà ce qui se passe pour tous ceux qui suppriment la vérité au sujet de Dieu et qui prennent la gloire destinée à Dieu pour se l'attribuer, pour se l'attribuer à eux-mêmes. Dieu jugera de manière inévitable tout péché et le fera de manière à l'amener à la disgrâce. Le premier ange donc avertit ceux qui sont spirituellement indifférents, les appelle à se réveiller et à venir à se réveiller parce que Dieu vient, que le Seigneur Jésus-Christ vient, il y a un jugement et il les appelle à la repentance. Le deuxième ange souligne la certitude du jugement de Dieu sur Babylone, sur ce monde et sur tout péché. Ceux qui boivent la coupe de l'iniquité boiront aussi la coupe de la colère de Dieu. Ce qui nous amène au troisième ange. Ce troisième ange nous avertit de la sévérité de la colère de Dieu. Versets 9 et 10. Un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front et sous sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. » Il confronte ceux qui sont qui ont donné leur loyauté à ce monde, qui appellent ce monde leur demeure, qui sont assis dans ce monde, ceux qui vivent pour ce monde, ceux qui adorent la bête, même s'ils ne le réalisent pas. Il les confronte. Nous avons déjà vu la marque sur le front, qui parle de notre pensée, et de la marque sur la main, qui parle de nos actions. Et nous avons déjà dit que si nous n'adorons pas Dieu, si nous n'adorons pas le Seigneur Jésus-Christ, si nous ne venons pas à lui par la foi en Christ, alors nous adorons la bête. Nous adorons la bête, il n'y a pas d'alternative. Et ceux qui suivent la bête connaîtront le même jugement que la bête. Ceux qui adorent les idoles de ce monde, qui servent la bête, seront tourmentés dans le feu et le soufre. Cela souligne la réalité de l'enfer. Il est facile de suivre le monde dans cette vie, mais si on prend le temps de calculer le véritable coût, les choix que l'on fait ici-bas, comme nous l'avons déjà dit, ont des conséquences éternelles. L'enfer ou le ciel. Si nos péchés ne sont pas traités ici-bas par le Seigneur Jésus-Christ, alors on les portera éternellement sous la colère de Dieu. Il y a trois choses que l'on peut voir au sujet de cette punition éternelle et de l'enfer. La première, c'est que cette punition vient sous la forme d'un tourment. Un tourment dans le feu et le soufre. C'est une image pour parler d'un tourment physique, un tourment corporel. Là, on reprend bien sûr l'histoire de Sodome et de Gomorre, quand le feu et le soufre sont tombés sur le ciel pour détruire ces villes et ses habitants. Genèse chapitre 19. C'est une image de souffrance terrible sous le jugement de Dieu. Beaucoup de personnes, malheureusement aujourd'hui, disent que on ne doit pas prendre ces choses de manière littérale. Si vous voulez développer ou aller plus loin, je vous invite à lire ce livre « Où donc est passé l'enfer » de Jean Blanchard, publié chez Europresse. Ces personnes vont dire que l'Apocalypse utilise des symboles et que donc la description est symbolique ici. C'est vrai que c'est un symbole, mais un symbole de quoi ? C'est un symbole d'une réalité qui est encore plus grande. Apocalypse, on ne cesse de le dire, utilise des symboles. Il a parlé du dragon, nous l'avons vu, c'est un symbole. Mais la réalité est plus terrible qu'un dragon. La réalité, c'est Satan lui-même. Ici, nous avons le feu et le soufre. La réalité, c'est une souffrance corporelle et consciente en enfer. Tous, nous le verrons plus tard, tous seront ressuscités au dernier jour. Les personnes qui souffrent en enfer souffrent dans leur corps. ce qu'elles vivront est pire que ce que peuvent décrire les symboles du feu et du soufre. Et le verset 11 parle de la fumée de leurs tourments qui monte. C'est un mémorial à la punition, au jugement de Dieu. Et cela implique un tourment donc corporel, conscient et éternel. La deuxième chose, le verset 12 souligne, le verset 11, pardon, ce que souligne que cette punition se passera devant les anges et devant l'agneau, verset 10. La souffrance ne sera pas seulement corporelle, mais elle sera aussi spirituelle. Elle impliquera l'angoisse causée par la vision du Seigneur Jésus-Christ exalté. Les personnes ont haï le Seigneur Jésus-Christ. Elles ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour ne pas plier le genou devant lui. Mais là, elles seront obligées de plier le genou devant lui et de voir la gloire de sa justice manifestée dans sa colère juste et sainte. Nous avons vu déjà les prières des saints qui montaient devant Dieu. Là, nous voyons la fumée de leur tourment, de ceux qui n'ont pas voulu prier à Dieu, de ceux qui n'ont pas voulu l'adorer. La fumée de leur tourment montera devant lui et sa justice sera exaltée, parce qu'elle a été exécutée de manière parfaite. La souffrance sera corporelle, elle sera spirituelle, mais troisièmement, elle sera aussi éternelle. Elle ne connaîtra pas de fin. Certains ont essayé d'interpréter ce passage pour défendre ce qu'on appelle l'annihilationnisme. Ces personnes disent que les gens ne sont pas réellement tourmentés sans fin, mais qu'ils seront détruits pour toujours. Et ils utilisent l'image et disent si on brûle quelque chose, cette chose se consume et il ne reste rien. Mais tout cela contredit bien entendu l'enseignement de la parole qui affirme que le tourment est éternel. On le verra au chapitre 20 et au verset 10. Que Satan et ses bêtes, le tyran et le faux prophète, seront jetés dans l'étang de feu et de soufre, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Et cela ne se limite pas à Satan et à ses bêtes, parce qu'au verset 15 de ce même chapitre 20, nous lisons « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. » Les serviteurs de la bête connaîtront le même tourment éternel que leur maître. Bien sûr, on peut trouver très difficile cette réalité. Certains vont même parler de l'immoralité de l'enseignement de la Bible, parce qu'elle enseigne un tourment corporel et conscient, éternel. Mais on peut répondre à cela de deux manières. Et en particulier à partir du message du premier ange. Tout d'abord, l'ange dit que le jugement vient, qu'il ne faut pas contester Dieu, qu'il ne faut pas se tenir devant Dieu pour lui dire ce que nous pensons être juste. Non, son message est « craignez Dieu et donnez-lui gloire ». Dieu est Dieu. On entend souvent dire que ce qui se passe en enfer ne semble pas juste, mais la réalité de ce tel propos, c'est parce que nous ne sommes pas des créatures saintes. Nous n'avons pas une sainte horreur du péché. Nous devrions voir le péché comme quelque chose d'immoral, de voir la sainteté, le sainteté de Dieu comme quelque chose de pur, de parfait. Dieu ne peut pas voir le mal. Il ne peut pas voir le péché. Ses yeux sont trop purs pour voir le mal. et Dieu punira le péché. Et ceux qui vivent dans le péché, ceux qui n'ont pas été lavés dans le sang de l'agneau, parce qu'il ne peut pas voir le mal. Mais la deuxième manière de répondre à cette difficulté, c'est de voir que l'ange apporte un évangile, une bonne nouvelle. Bien sûr, comme nous avons dit, c'est une bonne nouvelle pour le peuple de Dieu qui souffre. C'est une bonne nouvelle d'apprendre que son ennemi sera détruit, qu'à la fin, son ennemi sera détruit. Mais cette bonne nouvelle aussi apporte et révèle la miséricorde de Dieu. Cette miséricorde de Dieu qui se voit dans le fait que Dieu avertit. Il avertit aujourd'hui par sa parole. La parole de Dieu parle de jugement, elle parle de condamnation, mais aujourd'hui est encore un jour de grâce où la parole de Dieu invite les pécheurs à venir à Christ par la foi. L'évangile est encore annoncé aujourd'hui. Pour terminer, que faire? Comment appliquer cela? Jean nous exhorte d'abord, verset 12, à la persévérance, à continuer dans la foi de Jésus. En fait, il nous exhorte à continuer à défendre, à proclamer l'Évangile, à croire ce message que par la foi dans le Seigneur Jésus-Christ, les pécheurs sont pardonnés de leurs péchés, sont lavés de leur culpabilité par le sang de l'agneau, qu'ils sont réconciliés avec Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ a remporté la victoire et cette victoire sera révélée à tous lors de son retour dans la gloire. Il règne aujourd'hui pour garder son peuple, pour empêcher son peuple de retourner dans Babylone. Il garde les siens jusqu'à la fin. Persévérons dans l'Évangile, dans la foi, à proclamer, à vivre cet Évangile, mais garder les commandements de Dieu. Renoncer à Babylone, renoncer à ce monde, renoncer à boire la coupe de Babylone, refuser cette coupe qui est souvent présentée à nous de différentes manières, cette coupe qui est en réalité un poison. Et pour ce faire, nous avons besoin de sa grâce pour vivre, pour nous détourner des tentations de ce monde, pour renoncer à cette Babylone, à ce monde impie, et pour vivre et proclamer l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ. Bien sûr, en refusant la coupe de Babylone, on subira la colère de Babylone. Mais rappelons-nous du cri de l'ange. Elle est tombée, Babylone. Elle est tombée, Babylone la grande. Christ est vainqueur et sa victoire sera révélée aux yeux de tous quand il revient. Que Dieu donc nous aide, qu'il nous accorde sa grâce, qu'il nous aide à comprendre ces choses et qu'il nous aide à les vivre pour sa gloire. Amen.